Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Aliette Ovine et Cédric Fuentes, à la réalisation Anna Holdeck et à la prise de son Jacques Hubert.
Entendez-vous l'écho? Arjuna Andrade.
Premier jour de notre série consacrée aux habits neufs de la colonisation. Une semaine pour revenir sur l'héritage complexe d'une relation vieille de près de deux siècles. Une semaine pour tenter d'éclaircir les survivances et les résurgences d'une domination coloniale que certains croyaient finie. Demain, nous nous intéresserons à une monnaie présentée par les uns comme un instrument de stabilité par les autres, comme un outil de préservation des intérêts français. Nous interrogerons la place qu'occupe aujourd'hui encore le CFA dans l'économie de nos anciennes colonies. Mercredi, nous analyserons la présence et l'activité des entreprises tricolores sur le continent africain pour tenter de savoir si la domination française passe désormais par le privé. Enfin, nous reviendrons sur la trace toujours présente laissée par l'expérience coloniale sur les esprits et les imaginaires français. Mais pour l'heure, nous partons au tournant des années 50. L'empire français colonial est sur le point de s'effondrer et les dirigeants de la métropole cherchent à réinventer les voies de leur puissance et à peser sur le destin de ce nouveau État souverain. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui pour parler de ces nouvelles manifestations de la colonisation, Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur, chercheur à l'IRIS et président du GRET. Vous êtes notamment l'auteur de L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence, publié chez Cartala. Avec nous également Julien Mémon, enseignant-chercheur en sciences politiques à Paris 1, fondateur de l'association Linky et auteur notamment de l'article L'invention de l'aide française au développement, discours, instruments et pratiques d'une dynamique hégémonique, publié aux éditions de Série Sciences Po. Pierre Jacquemot, Julien Mémon, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour commencer, je vous propose d'écouter cette voix grave et familière nous parler en 1958 d'une aube nouvelle qui se lève sur la relation entre la France et l'Afrique.
Une aube nouvelle va se lever sur l'ensemble formé par la France et par les territoires africains. Une aube nouvelle qui s'appellera l'aube de la communauté. Nous avons tellement à faire ensemble dans cette époque où tout se transforme, où tant de choses appellent les activités. Nous avons à faire sortir du sol toutes les richesses nouvelles qu'il faut pour donner aux hommes, où qu'ils soient, le droit d'être fier et d'être digne. Et nous avons à faire cela au milieu d'un monde en plein changement, d'un monde dur et difficile. Nous le ferons. C'est notre devoir d'homme et c'est notre volonté. Vive le Tchad! Vive la France!
Pierre Jacquemot, vous avez certainement reconnu cette voix.
Oui, alors c'est pas le premier discours du général de Gaulle sur la décolonisation, puisque un célèbre discours tenu pendant la guerre à Brazzaville avait déjà, on considère qu'il est annonciateur d'un changement important dans la politique coloniale française, devant mener progressivement. La date n'était pas à l'époque fixée vers une indépendance des anciennes colonies françaises, en particulier en Afrique.
On est alors en 1958, au retour de Gaulle. Il est au Tchad, il fait ce qu'on appelle un grand tour d'Afrique pour présenter cette nouvelle constitution qui prévoit la création d'une communauté regroupant la France et ses anciennes colonies, transformées en république autonome. Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet que forme le général de Gaulle pour ses anciennes colonies dans une nouvelle relation avec la France?
Alors effectivement, il y a eu le projet d'organiser, je dirais, un sas entre la situation coloniale et l'indépendance pleine et entière, qui était une relation privilégiée avec la France, projet qui a largement capoté, qui avait reçu d'ailleurs un avis extrêmement négatif et qui reste dans l'histoire, celui de la Guinée. Et pas mal de réticences des 8 mai d'un certain nombre d'autres pays, en particulier du Sénégal. Ce projet échoué a précipité en fait les indépendances dès 1960.
Il faut dire, Julien Mémon, que depuis la loi Defferre de 1956, qui autonomise les possessions françaises, on sent que la fin de l'Empire est proche, et donc il faut commencer à retisser de nouveaux liens sans recréer cette France d'outre-mer qui s'achève.
Alors oui, c'est tout l'enjeu pour les dirigeants de la Ve République, et c'est tout ce qu'il y a d'intéressant dans cette fabrication de nouveau à partir du monde ancien, qu'est le monde colonial. C'est-à-dire, comment arriver à forger un système qu'on veut présenter comme nouveau? Et on voit bien la facilité et la finesse de Gaulle dans ses discours pour appeler à une aube nouvelle, sa foi en l'homme. Vous voyez, un discours qui est un discours fédérateur, qui est un discours de futuriste, pour dire, voilà, il va se passer des choses nouvelles, chacun a droit, il dit pas à l'autodétermination, mais on entend bien dans ce discours qu'il veut présenter les choses avec une certaine envergure et une dynamique de nouveauté. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que pour créer ce qu'on présente comme nouveau, on va recycler des agents, des gens qui travaillaient déjà sur place, des politiques publiques, des fonds, des institutions qui existaient et qui viennent de l'ordre colonial. Donc la vraie question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut faire du nouveau avec de l'ancien, d'une certaine manière. Et c'est toute l'ambiguïté de cette période. C'est d'arriver à la comprendre comme la fabrication d'un ordre nouveau, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui présente la particularité d'être fabriqué à partir donc d'une grande partie de matériaux, on va dire, recyclés.
Mais ce que vous nous dites aussi, c'est qu'à rebours de cette peut-être vision un petit peu mythifiée, voire téléologique d'un passage d'un ancien monde à un nouveau, vous nous dites que au contraire le pouvoir français ne sait pas exactement comment gérer ce passage aux indépendances. Il y a beaucoup plus de tâtonnements qu'on ne le croit, notamment de la part du général de Gaulle.
Absolument. Alors d'abord, contre tout ce qui est dit dans beaucoup de livres d'histoire, le général de Gaulle ne décide pas tout seul. Enfin, c'est un peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. La sociologie politique nous apprend à décrypter un petit peu ce qui peut être dit par un président de la République. Il n'est pas tout seul, il a des conseillers, il y a des ministres, il y a des premiers ministres. Et en l'occurrence, si on regarde l'exécutif diarchique de la Ve République, Michel Debré, le premier ministre, n'est pas d'accord avec le général de Gaulle sur la manière, sur le sort à réserver aux anciennes colonies africaines dès lors qu'elles rejoignent cette communauté franco-africaine que de Gaulle appelle de ses voeux dans le discours que vous avez diffusé tout à l'heure.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce désaccord entre le président et le premier ministre de la France qui sera peut-être important pour comprendre la suite de cette émission?
Alors c'est des éléments que j'ai analysés dans différents articles à partir des archives, à partir notamment des correspondances entre Debré et De Gaulle, entre Debré et le ministre de la Coopération en 1960, en 1961. Pour simplifier, pour schématiser, De Gaulle est partisan d'une généralisation du dispositif dès lors que les pays rejoignent la communauté franco-africaine. Que ces pays, dès lors qu'ils deviendront indépendants, soient gérés par le Quai d'Orsay, soient gérés par les diplomates, soient gérés comme les autres pays. Debré considère au contraire que c'est impossible, pour quantité de raisons. D'abord parce qu'il y a une forme de vocation africaine, à laquelle lui est sensible pour des raisons personnelles et historiques. Et ensuite parce qu'il est affronté à un problème assez particulier qui consiste à devoir trouver une place dans les administrations métropolitaines à tous les fonctionnaires de la France d'outre-mer qui sont sur place, qui jouent un rôle tout à fait...
Plusieurs milliers encore à cette
plusieurs
époque.
Plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Qui jouent un rôle tout à fait important sur place, qu'il est impossible à recaser. J'ai quelques extraits d'archives que je pourrais vous donner tout à l'heure là-dessus, qu'il est difficile à recaser, en tout cas dans les administrations métropolitaines, qui n'ont eux-mêmes pas forcément envie de rentrer, et surtout qui sont extrêmement utiles pour maintenir une dynamique relativement hégémonique sur ces territoires. Parce que dans le discours de De Gaulle, et dans cette période d'incertitude, il y a aussi l'ambition française, pour le coup partagée, je pense, par tout l'exécutif, de conserver des liens privilégiés avec ces pays qui sont aussi une source pour des matières premières, pour revendre des produits manufacturés.
Pierre Jacquemot, vous êtes vous-même ancien diplomate. Quel regard avez-vous sur cette peut-être opposition d'un regard plus pragmatique que l'autre entre Michel Debré et le général de Gaulle?
Il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. La France avait perdu l'Indochine en 1954, donc il y a un séisme qui avait marqué l'Empire français, un séisme assez grave. Et puis, nous étions en pleine guerre d'indépendance de l'Algérie. 1956-1962. Et déjà, peut-être, Général de Gaulle, autour de l'année de 1960, pensait également que l'Algérie devait avoir un statut de plus grande autonomie, voire d'indépendance. Donc on est dans un contexte où il y a une remise en cause de l'ensemble du modèle colonial français. Alors effectivement, il peut y avoir des perceptions très différentes au sein de l'appareil politique français sur ce qu'il convient de faire avec les anciennes colonies, en particulier d'Afrique. Je vois à la fois des éléments de continuité et de rupture. Continuité, dans les années 50, la France avait conduit des programmes d'infrastructure, de modernisation importants avec un dispositif financier qui s'appelle le FIDES, qui était tout à fait adapté pour ce type d'opération. Et en fait, en 1960, les gouvernements indépendants reprennent beaucoup de ces programmes. On est dans le volontarisme économique, on est dans la planification, on est dans l'éducation pour tous, la santé de base, etc. Donc il y a une prolongation d'un certain nombre de programmes. Alors il y a des acteurs qui sont identiques. Mon collègue Mémon vient de le dire à propos des administrateurs de la France d'outre-mer, qui ont continué le travail qu'ils faisaient avant les indépendances. Ceci étant, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent. Je suis parmi ceux-là, puisque je suis rentré en coopération dans ces années-là, notamment par le truchement d'un nouvel instrument qui était la possibilité qui était donnée à des jeunes de faire leur service militaire en coopération. C'est pas un phénomène mineur, puisque beaucoup de jeunes Français se sont ouverts à la coopération internationale en évitant d'aller à la caserne de Thionville et en étant prof, vétérinaire, médecin, ingénieur sur le terrain. Ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est que ces pays sont indépendants. Donc, malgré tout, ils peuvent revendiquer une voie différente de celle préconisée par Paris. Il y a des pays qui sont en rupture, c'est le cas de la Guinée qu'on a cité tout à l'heure, mais d'autres choisissent la voie socialiste, que ce soit au Congo, que ce soit au Bénin par exemple, et choisissent un camp qui est différent du camp occidental. Donc les choses ne sont pas... Il y a des éléments de rupture importants pendant cette période.
On va revenir sur cette influence du modèle socialiste, communiste même, qui fait peur notamment à la métropole à ce moment, qui va la conduire à agir de la manière dont elle a agi. Mais peut-être au-delà des acteurs, il faut essayer que vous nous expliquiez, il faut essayer de comprendre, avant de comprendre ce qui diffère et ce qui évolue, quel était ce modèle de mise en valeur et de développement économique porté par la France dans ses colonies. Peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur la structuration de l'économie dans les colonies, notamment d'Afrique subsaharienne. On a eu beaucoup de critiques sur le fait justement que la France avait forcé une forme de spécialisation économique très forte qui avait ensuite handicapé sur le long cours ces pays.
Il y a une illustration extrêmement frappante qui peut être donnée de ce modèle colonial en matière économique, qui est le plat national du Sénégal, le Tiéboudiane, qui est un plat très important, un plat familial, qui incarne en quelque sorte la gastronomie locale, et qui est fait, qui a pour base un riz brisé qui venait d'Indochine. Et encore aujourd'hui, le plat national est fait sur la base d'une céréale qui est importée. Ça, c'est typique du modèle colonial où la France a imposé la culture de l'arachide pour des besoins propres de la métropole, qui était l'huile d'arachide, moins chère que l'huile d'olive méditerranéenne, susceptible de pouvoir satisfaire les besoins en particulier de la classe ouvrière française, a imposé la culture d'arachide au Sénégal. Et en substitution, puisque les cultures vivrières, en particulier le mil, le niébé, le riz, dans certaines régions, en particulier en Casamance, n'étaient plus possibles, on a proposé en contrepartie, de consommer du riz venant des autres colonies. Voilà. Là, on a parfaitement une illustration un petit peu caricaturale, mais qui laisse encore des traces près de 60 ans après les indépendances. C'est ça le modèle colonial.
On va donc orienter la production économique en fonction, en grande partie, de ce qui intéresse la métropole. Il y a dans ce sens le fait que l'on veuille importer des produits de nos colonies. Il y a aussi le fait que l'on veuille créer un marché pour des débouchés, pour envoyer nous-mêmes nous-mêmes la France métropolitaine, envoyer des produits manufacturés vers ces colonies.
Oui, absolument. C'est un des enjeux de cette période de changement, de rupture et de continuité. Enfin, on voit le mélange complexe des deux. Mais c'est un des enjeux. C'est comment conserver des relations privilégiées avec ces pays pour ces raisons économiques, pas uniquement, aussi pour des raisons diplomatiques. On pèse plus de voix à l'ONU lorsqu'on doit défendre un texte. Aussi pour des raisons stratégiques au sens militaire du terme. Mais vous savez combien les militaires et les bases militaires françaises, je fais pas référence aux chanteurs aux chansons d'Alpha Blondy, qui sont, vous connaissez Armée française quand même, c'est une chanson assez connue, la présence militaire en Afrique est un enjeu stratégique majeur au moment où le continent sous l'emprise de différentes grandes puissances, et notamment des deux grands blocs, bloc occidental et bloc soviétique. Et il y a des Russes et des Chinois qui sont présents en Afrique, autant que des Américains. Et évidemment, les Français cherchent à tirer leur épingle du jeu dans cette période, à ce moment-là.
La France va essayer de tirer son épingle du jeu. Il y a d'ailleurs le général de Gaulle qui, en février 1959, explique que la politique de la France en Afrique est de faciliter l'évolution de ces pays, de façon à les prémunir contre la tentation d'accepter les offres des pays communistes. On voit donc que c'est très clairement l'objectif du général de Gaulle, et a fortiori de son gouvernement, de faire tout pour empêcher que ces anciennes colonies tombent dans l'escarcelle du bloc de l'Est.
Alors ça, si vous faites référence à une archive que je connais, je crois que c'est un discours public, peut-être devant les parlementaires français. En tout cas, c'est un discours qui est orienté. Et un des principes de la domination, ça c'est ce que nous apprend la sociologie politique, c'est qu'elle est d'autant plus efficace qu'elle ne se présente pas comme telle. Et quand on écoute le discours de Gaulle tout à l'heure, celui que vous nous avez fait écouter, il n'est pas question de maintenir une domination, il n'est pas question de relations hégémoniques, il n'est pas question de trouver des débouchés pour les produits manufacturés fabriqué en France ou pour un travail intercolonie ou territoires coloniaux d'import-export interne en quelque sorte. Il parle d'autre chose. Effectivement, c'est un des enjeux, clairement. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule manière dont le général de Gaulle le décrit, décrit cette période dans tous les cénacles. Et ce que disait Pierre-Jacques Maud tout à l'heure est très important, c'est que en 1960, mais en 1958 aussi, on est en pleine période de remise en cause des empires coloniaux, et ça ne touche pas que la France. Mais la France est directement touchée, puisque depuis 1956, vous faisiez référence à la loi cadre de fer, il y a aussi les élections dans tout le territoire africain qui voient la victoire du Rassemblement démocratique africain, qui est conduit par Oufouette Boigny. On voit bien que les choses sont en train de bouger, et on sait très bien sur le terrain que les choses sont en train de bouger. J'avais exhumé un bout de lettre du gouverneur de Guinée en 1957. Et ce gouverneur de Guinée, donc on est en 1957, donc les élections de 56 ont eu lieu, la loi de fer est passée. Et voici comment il pose, donc il est lui-même évidemment administrateur de la France d'outre-mer, administrateur colonial, qui ne s'appelle plus administration coloniale, mais administration de la France d'outre-mer depuis déjà 1956. Justement, ça fait partie des réformes comme la suppression du code de l'indigénat qui donnait droit de vie et de mort, en gros, sur les populations locales qui sont des moments, des étapes qui scandent l'évolution de la période coloniale vers la période de coopération. Et donc, ce gouverneur de Guinée disait en 1957, je crois qu'il écrit à son fils, il disait la chose suivante. Il faut décrocher le plus vite possible si nous voulons conserver une certaine influence dans ce pays. Le décrochage, c'est le recassement des fonctionnaires ou leur reconversion. Ce peut être aussi leur utilisation ou l'utilisation de certains pour organiser l'assistance technique. Seulement, pourra-t-on le faire avec les anciens cadres? Ne sont-ils pas, de façon indélébile, marqués du sceau du colonialisme? Pour moi, Jean Ramadier pose exactement la question fondamentale de cette période très particulière, faite d'incertitudes, y compris pour ceux qu'on voit de façon téléologique comme des visionnaires, de Gaulle au premier chef, on va dire, et une période dont on ne sait pas exactement ce qui va sortir.
C'est donc tout l'enjeu, c'est ce que vous dites, tout l'enjeu de cette période, c'est de réussir à maintenir son influence et la domination d'une certaine manière de la France dans ces régions, tout en transformant le discours pour justement ne plus être marqué de ce sceau, d'une certaine manière, de l'infamie de la colonisation qui pèse de plus en plus lourd. Je me permets de citer la fin de ce discours de Gaulle qui explique qu'il faut se protéger les États des communistes et qui dit « Nous voulons convaincre les Africains que l'aide que nous leur apportons ne comporte de notre part aucune pensée de domination. » Donc on voit qu'à rebours, il explique, Pierre Jacquemot, que contrairement à cette avancée du communiste qui le font avec un intérêt bien compris, la France, elle, arrive par bonté et par bienveillance envers ses anciennes colonies, d'une certaine manière.
Non, je ne crois pas à la bienveillance des États, pas davantage à leur compassion. Je pense que les États sont toujours animés par des intérêts. On peut retrouver de la compassion, de la bienveillance chez des individus qui sont des acteurs de la coopération ou chez certaines organisations. Je pense aux organisations non gouvernementales, mais les États ne sont pas du tout sur ce registre. Vous l'avez laissé entendre, on est dans le contexte de la guerre froide, donc les enjeux sont bipolaires. Hein. La France a choisi son camp, même si le général de Gaulle essaye d'avoir une voix originale, spécifique. On le sait dans le rapport des forces entre bloc Est-Ouest, mais les enjeux sur le terrain sont très clairs. L'influence russe est très importante dans un certain nombre de mouvements de libération, en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau par exemple. L'influence américaine est présente sur les mêmes terrains, mais avec les camps opposés. L'influence politique et économique française est fortement marquée sur un certain nombre de pays qui comptent. On a cité la Côte d'Ivoire de Fouad Boigny, c'est certainement un pays important, mais également le Cameroun, le Sénégal, il y a un certain nombre. Donc on est dans un contexte où on se fait pas de cadeaux. On a besoin de voix aux Nations Unies, on vient de le dire. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts symboliques, idéologiques, tout ceci se mêle, mais certainement pas de la compassion, je n'y crois pas en ce qui concerne les États.
Peut-être pas de compassion, mais en tout cas aucune arrière-pensée de domination, selon les mots du général de Gaulle. Mais ce qui est intéressant, vous le disiez à l'instant, c'est que la France essaie de mener une politique indépendante, justement, entre le camp de l'Est et le camp de l'Ouest. Elle le fait dans un moment particulier, qui est que la 4e République a été particulièrement décrédibilisée par sa gestion des indépendances, vous nous le dites dans vos travaux, Julien Mémon, et à ce moment, donc, elle essaie de créer une voie nouvelle, un discours nouveau pour orienter sa politique, pardon, vis-à-vis de ses anciennes colonies. Je vous propose d'écouter le son de Maurice Werther, correspondant à l'ORTF à New York, qui nous parle justement de la façon dont la France est perçue à l'ONU.
Ici Maurice Werther à New York. L'Assemblée générale des Nations unies a terminé son débat sur l'Algérie en votant de façon définitive cette fois, par 77 voix contre 0, c'est-à-dire à l'unanimité, la résolution suivante. L'Assemblée générale, ayant entendu les déclarations des diverses délégations et discuté la question algérienne, considérant la situation en Algérie qui cause beaucoup de souffrances et de pertes de vies humaines, exprime l'espoir que, dans un esprit de coopération, une solution pacifique, démocratique et juste sera trouvée par des moyens appropriés, conformément aux principes de la Charte.
Comme nous l'entendions dans la bouche de Maurice Werther, correspondant à l'ORTF à New York le 15 février 1957, il y a une motion à l'unanimité de l'ONU qui demande à la France de trouver une résolution pacifique et démocratique en Algérie, Julien Mémon.
Ben voilà, on est en plein dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette difficulté, cette remise en cause pour les puissances coloniales par les puissances colonisées et qui prend forme notamment à l'ONU, mais pas seulement. C'est aussi tout un mouvement politique très entraînant en France, puisqu'on parle là du cas français. Tous les jeunes coopérants dont parlait Pierre Jacquemot tout à l'heure, ce sont pour beaucoup des tiers-mondistes. Les tiers-mondistes, c'est un terme particulier qui est né justement à la fin des années 50, début des années 60, et qui propose une autre solution que celle dont le monde est en train d'accoucher en quelque sorte. Et ce sont des jeunes, c'est ceux qui vont partir en coopération par la suite pour échapper à la conscription militaire classique. Ce sont des jeunes qui vont militer, se battre, manifester, perdre la vie aussi, parfois c'est arrivé dans les manifestations en France, contre la guerre d'Algérie, contre le colonialisme. C'est non seulement au niveau macro, si vous voulez, à l'ONU, un moment où la France est contestée et donc à l'unanimité, comme l'indiquait l'archive sonore que vous avez exhumée, mais c'est aussi un moment important dans l'histoire française parce que c'est toute une cohorte de gens qui vont nourrir ce système de coopération dont on parle, c'est-à-dire tous les développeurs, tous les gens qui vont s'intéresser au développement, tous les gens qui vont être en poste jusque dans les années peut-être 90 et dont certains sont encore aujourd'hui en poste, ce sont ces jeunes qui investissent les structures d'État que l'on va créer dans les pays en question, à côté des ambassades ou en marge des ambassades, et qu'on va appeler ce système de coopération.
Toujours est-il que le président Charles de Gaulle a besoin de se démarquer donc de cette 4e République finie et de sa gestion des indépendances. Elle va donc mettre en cette nouvelle République va donc mettre en place un certain nombre de gestes symboliques. Jean Mémon, vous parlez notamment de cette fraternisation avec l'Algérie, d'un rapprochement avec l'Égypte. Tout cela participe, Pierre Jacquemot, d'une volonté de changer non seulement le discours mais aussi la perception de la manière dont la France gère ses anciennes colonies.
Oui, une précision quand même à propos de ce que nous venons d'entendre. 1957, l'Algérie, c'est la France. Mm-hmm. Ce sont des départements français. Ce n'est pas le cas du Maroc ou de la Tunisie, ce n'est pas non plus le cas des pays d'Afrique subsaharienne sous le joug colonial français. C'est un régime très très particulier. Les choses, évidemment, comme on le sait, vont profondément évoluer dans un laps de temps très court en ce qui concerne l'Algérie, mais on ne peut pas interpréter le fait algérien comme une illustration du fait colonial et de la décolonisation ailleurs. C'est quand même une particularité très très grande.
Mais ça participe d'une façon dont la France est montrée du doigt au niveau international, ce qui arrange bien d'ailleurs un certain nombre de pays qui montrent non seulement regarder comment la France traite un certain nombre de colonies, mais regarder en plus comment elle traite des peuples qui sont certes considérés par la France comme une partie d'elle-même, mais qui sont considérés par un certain nombre d'observateurs extérieurs comme un asservissement d'un autre peuple à sa volonté.
Oui, mais si on exclut le cas algérien, la décolonisation française s'est plutôt bien passée. Il y a l'affaire camerounaise est un peu particulière, mais si on fait une comparaison avec des pays que je connais bien, puisque j'étais en poste au Kenya ou au Ghana, qui sont des pays qui ont connu le premier pays à être décolonisé en Afrique, c'est le Ghana. Au Kenya, il y a eu la révolte des Maïmaïs qui a fait beaucoup de mal. Donc, la France, d'une certaine manière, pourrait se vanter d'avoir engagé un processus de décolonisation assez doux, sans trop de heurts. Et qui a permis la transmission du témoin à une élite africaine. Et là aussi, je pense que mon collègue Mémon confortera l'analyse que je fais. Une élite africaine largement formée en France. On a fait un petit travail d'histoire pour constater que 70% des leaders africains d'Afrique francophone avaient été formés en France, avaient fait des séjours parfois très longs. Et revenait au pays avec étant marqué par cette influence française et pouvant gérer cette relation ambiguë, délicate entre France et Afrique, leur propre terroir, et faciliter en quelque sorte l'appropriation d'un certain nombre de valeurs par le truchement africain. C'est assez important de constater qu'il y a eu cette transmission par une élite francophone formé très largement en métropole.
Qui avait été formé en métropole, mais qui aussi, pour un certain nombre, avait eu une carrière politique dans ce qui était la France de l'époque. On pense notamment à Léopold Sédar Senghor et à bien d'autres. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce moment de passage de témoin, c'est la manière dont la France va réussir habilement à faire que cette rupture des indépendances ne se fasse pas de manière trop vive. La France va donc proposer, ou plutôt imposer à ses colonies, de signer en contrepartie de leur indépendance des accords de coopération. Je propose d'écouter ce qu'en disait en 1960 le président Fulbert Youlou, nouveau président de la République du Congo.
Votre assemblée est appelée à se réunir en session extraordinaire à l'occasion de la proclamation officielle de l'indépendance de la République du Congo par une délégation spéciale et extraordinaire de la République française. Dans le même temps, vous serez appelé et ratifier les accords de coopération que nous avons passés entre la République du Congo et la République française. De même que dans un individu, les différentes parties du corps se commandent et influent les unes sur les autres. De même, dans le monde, devons-nous compter avec les autres pays et nous appuyer d'abord sur nos amis. C'est dans cet esprit, et compte tenu des liens d'intérêt et d'estime réciproques qui nous unissent à la France, que j'ai paraphé à Paris le 12 juillet dernier, en même temps qu'était signé l'accord qui nous conférait l'indépendance, les accords de coopération qui sont aujourd'hui présentés à votre ratification. Ces accords couvrent un domaine très étendu, puisqu'ils s'appliquent à la coopération en matière de politique étrangère, à la défense, à l'assistance militaire technique, à l'assistance technique et matérielle, à la coopération culturelle, à l'enseignement supérieur.
Politique étrangère, défense, assistance militaire technique, enseignement supérieur. On entendait, Julien Mémon, la liste très longue des pouvoirs sur lesquels les nouveaux présidents africains, et notamment le nouveau président de la République du Congo, acceptent de coopérer avec son ancienne puissance coloniale. On peut dire que le solde reste finalement assez positif pour la France à l'issue de ces décolonisations.
Je ne sais pas si on peut porter un jugement définitif sur le solde. En tout cas, c'est compliqué d'arriver à préserver une relation bilatérale avec un pays qui devient indépendant. Et les accords de coopération fournissent un outil tout à fait singulier à la France pour échanger en quelque sorte le maintien d'une aide dans différents secteurs contre une relation privilégiée. Et privilégiée qui peut prendre, là c'est officiel, une dimension stratégique, une dimension militaire, et dans d'autres cas, dans d'autres accords de coopération, à côté de l'accord de coopération paraphé sur la politique éducative, sur la politique de santé, sur la construction de routes, etc., vous avez un accord qui n'est pas public de coopération militaire qui permet en réalité à la France d'être présent et de pouvoir dire à ses alliés ou à ses opposants sur la scène internationale, nous disposons de bataillons importants à tel endroit. Ce qui permet aussi de sécuriser certains dirigeants africains qui peuvent être démis de leurs fonctions. Ça a été le cas au Gabon. Et puis la France a envoyé les militaires qui pouvaient intervenir puisque en vertu de l'accord de coopération justement de défense, les militaires français étaient tout à fait autorisés à intervenir et à rétablir éventuellement sur le trône celui qui en avait été démis. Donc ces accords de coopération sont aussi, et notamment en matière militaire, sont aussi des outils au service d'une élite africaine. Et tout à l'heure, Pierre-Jacques Mau l'évoquait à juste raison. Ce sont des dirigeants, les nouveaux dirigeants africains ont pour une grande partie été formés en France et sont francophones. Il y en a qui ont été députés ou ministres conseillers sous la 4e République. Ça veut dire qu'ils connaissent les élites françaises de la 5e République dans ce système nouveau. Eux les connaissent déjà avant et donc ils ont intérêt à conserver aussi des relations. Donc il y a aussi des histoires d'hommes derrière la grande histoire.
Pierre-Jacques Mau, conformément à ces nouveaux accords de coopération, l'aide qui vient de la France à l'Afrique va donc bien au-delà de ce qu'on entend généralement par coopération, par aide au développement, c'est-à-dire de l'argent envoyé par des fonds de la métropole vers ces nouvelles républiques.
Alors oui, tout ceci est une traduction institutionnelle très particulière. La France a décidé de créer, les différents gouvernements, de créer un ministère de la coopération, distinct du ministère des Affaires étrangères. Donc on considère qu'il y a un traitement spécifique, incarné par un ministre, plein pot, qui à une certaine époque a même été ministre d'État. Ce n'est que sous la présidence d'Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de ministre clairement identifié en charge de la coopération. C'est assez étonnant, mais dans l'histoire longue de la Ve République, il y a toujours eu une incarnation de cette relation avec l'Afrique au travers d'une personnalité qui est le ministre de la Coopération, un ministère installé de manière distincte du Quai d'Orsay.
Géographiquement même.
Géographiquement, avec un certain nombre de symboles d'ailleurs qui rappellent un peu la colonisation, en particulier la grille de la rue Monsieur qui est tout à fait étonnante. Un instrument financier qui déroge au principe des finances publiques en France, qui est qui s'appelle le Fonds d'aide et de coopération, qui par la suite deviendra le Fonds de solidarité prioritaire, mais qui permet, qui échappe à l'annualité budgétaire, ce qui permet de faire des investissements. Des coopérants, je n'y reviens pas, jusqu'à 10 000, en période de pointe, en 1980, on en compte plus de 10 000. Donc ça fait quand même des forces très importantes. Et sur place, à côté des ambassades, une mission d'aide et de coopération, qui est devenue mission de coopération et d'action culturelle, peu importe le titre. J'ai été deux fois chef de mission dans ma carrière, d'abord au Burkina Faso et au Cameroun. J'ai été nommé par décret, comme l'ambassadeur, placé légèrement en dessous, mais avec des effectifs, avec une équipe, des conseillers, des coopérants à gérer, des moyens financiers, distinct de celui du Quai d'Orsay. Donc il y avait une claire volonté, et ceci a duré jusqu'en 1998, jusqu'à une réforme dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, parce que c'est vraiment la grande rupture dans cette histoire longue de la coopération.
Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. La Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter.
Entendez-vous l'écho ? Une émission présentée par Arjuna Andrade.
On ne le dit pas assez. Une grande œuvre a été réalisée par le général de Gaulle depuis son retour à la tête des affaires. Cette grande œuvre, ce fut celle de l'émancipation de l'Afrique noire. 12 républiques africaines et la République malgache, qui étaient nos colonies, ont librement et fraternellement accédé à l'indépendance. Puis elles ont, à égalité avec la France, accepté et même souhaité le rétablissement de liens de coopération aussi étroits, aussi utiles et aussi féconds que les liens anciens. Au XIXe siècle, la grandeur était notamment le fait de la possession d'un empire. Au XXe siècle, la grandeur est notamment le fait d'un effort continu, généreux et habile à la fois de coopération. À de jeunes peuples, à des États nouveaux ou rénovés, s'ils acceptent les règles fondamentales de la liberté, s'ils acceptent la conception élevée que l'Occident nourrit de la vie internationale, la France offre de poursuivre par des investissements, par une aide technique et par son enseignement, leur effort de promotion sans laquelle, en fin de compte, leur indépendance ne serait rien.
Sans laquelle, en fin de compte, leur indépendance ne serait rien. On entendait les mots de Michel Debré, Premier ministre de la France, pour qui la situation est un peu plus claire. Les colonies ont accepté librement et fraternellement d'accéder à cette indépendance. Que peut-on penser de ce discours, Julien Mémon ? Est-ce plutôt un divorce ou une déclaration d'amour en ce 14 février 1962 ?
Ben c'est fantastique, mais c'est fantastique de duplicité, mais ça fait partie des affaires de gouvernementales en quelque sorte. C'est nécessaire parfois de dire un certain nombre de choses et puis d'en cacher d'autres. Ça a toujours été un problème pour Michel Debré, donc qui s'exprimait tout à l'heure, la communauté. Et ça a toujours été un enjeu et des discussions avec De Gaulle et des désaccords. Est-ce qu'il faut les garder à part et gérer, faire en sorte que ces pays soient gérés par le ministère de la Coopération avec une politique éponyme qui est en partie basée donc sur le recyclage de l'ancienne politique coloniale, ou est-ce qu'il faut l'intégrer comme le concert des, comme tous les autres pays, aux affaires étrangères et au ministère du même nom? Ils n'étaient pas d'accord là-dessus, et quand on entend Debré en 62 qui dit que tout se passe fantastiquement bien et que tout s'est fait de façon tout à fait libre, c'est pas vrai, évidemment. On a le cas de la Guinée, qui a refusé par référendum d'intégrer la communauté franco-africaine. Deux, on sait parfaitement qu'au sein de la communauté, tous les États ne sont pas sur le même plan et n'ont pas tous de bonnes relations avec la France. Et initialement avec la métropole. Troisièmement, quand on exhume les archives de Michel Debré, et notamment ce qu'il disait en 1959, je peux vous en dire, vous en donner quelques extraits rapidement, mais je pense à ce qu'il disait en août 59, et c'est une note qu'il avait adressée au général de Gaulle, et il parlait de la suppression des anciens services coloniaux, et de la nouveauté de la coopération, du ministère de la coopération, etc., en disant, écoutez, tout ça a conduit à un grand désordre. Présentement, il faut en avoir conscience, les rapports à l'intérieur de la communauté ne sont pas faciles en raison de la dispersion des compétences et des autorités. Il y a à la fois plein de pays qui sont intéressés et plein de puissances étrangères qui sont intéressées par l'Afrique, pour quantité de raisons qu'on a évoquées précédemment, et il y a en même temps en France des services administratifs qui sont totalement désorganisés. Et les services de coopération et cette nouvelle administration qui est en train de se créer, avec les missions d'aide et de coopération dont parlait Pierre Jacquemot tout à l'heure, sont aussi concurrencés par chacun des ministères français qui avaient l'habitude, dans la période coloniale, d'avoir ses propres émissaires. Donc le ministère des Finances avait ses émissaires, le ministère de l'Agriculture avait ses émissaires, etc., etc. Et l'unification de l'ensemble de ces services sous la maison coopération ne se fait pas bien. Elle se fait même très difficilement au départ. Et le tout premier ministre de la coopération, qui en fait exerce ses attributions par délégation des attributions du Premier ministre, et qui est ministre de l'aide aux États membres de la communauté, la fameuse communauté dont on a parlé tout à l'heure, n'arrive pas à exercer son rôle, et ce ministre démissionne très rapidement. Et il est remplacé par un nouveau ministre, qui va être un ministre de plein titre, on va dire, parce que l'autre était par délégation du Premier ministre. Et ce nouveau ministre va rencontrer quasiment les mêmes difficultés. Donc ça n'a jamais été simple pour un ministre de la coopération d'être ministre de la coopération, pour l'ensemble de ces raisons.
On entendait aussi dans ce discours de Michel Debré quelque chose de très intéressant, c'est que même s'il diverge de la vision du général de Gaulle, il lui aussi s'ancre dans la continuité du travail qui avait été fait par les Français dans leur colonie, et en se parant donc des vertus d'une forme de mission civilisatrice, d'apporter la modernité dans ces nouveaux espaces. Pas question, comme vous le disiez tout à l'heure, de parler des enjeux militaires par exemple. On choisit de mettre en avant un certain nombre de projets de développement économique pour montrer vraiment dans quelle mesure l'action de la France est une action avant tout positive, désintéressée. Vous nous parlez même d'une démarche compassionnelle, Pierre Jacquemot.
Oui, là aussi, je voudrais mettre les choses un peu dans leur contexte en citant une décolonisation qui s'est mal passée. J'ai cité les décolonisations britanniques, la révolte de Mau Mau au Kenya par exemple. Mais là, je parle du cas de la Belgique. Il se trouve que j'étais en poste à Kinshasa, et j'ai un peu regardé ce qui s'est passé dans l'année 1960. Les Belges sont partis du jour au lendemain, ont laissé un pays exsangue, avec aucune élite capable, pratiquement pas, quelques évolués, dont Patrice Lumumba qui fut assassiné très vite. Et le pays a été était dans une situation dramatique avec immédiatement deux tentatives de sécession, le Kasaï, le Katanga. Et on pourrait dire que 60 ans après, le Zaïre, sous l'autocratie de Mobutu et la République démocratique du Congo sous le contrôle de la famille Kabila, n'est pas encore vraiment sorti de l'ornière et d'une décolonisation qui s'est mal faite. De ce point de vue, si on prend des éléments de comparaison, la France s'en est plutôt pas trop mal tirée.
La France s'en est plutôt pas trop mal tirée. D'ailleurs, on verra peut-être plus tard dans l'émission que les dirigeants africains aussi sont heureux dans une certaine mesure de pouvoir bénéficier de cette continuité du pouvoir avec certaines élites françaises qui vont rester sur place pour les aider. Mais toujours sur cette logique du discours et de la présentation de cette rupture comme une rupture douce. Vous nous parlez notamment de la logique qui arrivera un petit peu plus tard, mais de la logique des images qui sont très importantes. On va voir ces enfants au ventre gonflé et c'est une manière de dire « Regardez, ils ont besoin de nous, nous y allons ».
Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a un mot qui continue de... un concept, une notion qui est celle de l'aide, qui continue de, comment dirais-je, de polluer notre perception de la relation au Sud, dans les Suds, avec les Suds. C'est d'ailleurs un combat qui est actuel, puisque dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi sur la coopération internationale, je me bats pour abolir définitivement ce mot « aide », qui est inspiré de cette perception verticale, condescendante, assistance, je donne, l'autre reçoit, la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit, portée effectivement par une idéologie qui a traversé toute l'histoire de la colonisation française. Nous apportons la civilisation, le bien-être, nous apportons... Alors, le discours était plutôt « nous apportons de la modernité, nous formons des élites, nous créons une administration efficace, nous établissons des normes en matière de justice, de finances publiques, etc. Il y a tout ce discours qui porte effectivement l'action, qui se traduit concrètement sur le terrain par des coopérants qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont les acteurs, les vecteurs, des médecins, des ingénieurs, des hauts fonctionnaires, des économistes, qui sont les vecteurs en quelque sorte de cette modernité qui est proposée aux Africains.
Et l'avantage aussi de ce discours, Julien Mémon, vous nous le dites, que l'un des avantages de montrer cette mission de la France comme la perpétuation d'une mission civilisatrice, c'est qu'elle a pour effet d'annihiler toute forme de débat et toute forme d'antagonisme politique. Donc on voit en France qu'il y a très peu de débats sur ces questions.
Absolument. Enfin, donc c'est vraiment l'idée de la domination, de ne pas la présenter telle qu'elle est réellement. Mais je crois qu'il est très important de nuancer aussi notre propos, c'est-à-dire que c'est pas simplement une politique qui ne dit pas son nom, c'est pas simplement une politique hégémonique, c'est pas simplement un rapport de force. Il y a aussi des outils. Et il le dit d'une manière assez claire, en fait, dans son discours. C'est Youlou qui disait ça dans le discours précédent, mais c'est en échange de notre intégration à la communauté franco-africaine, donc des liens, des accords, de la signature d'accords de coopération, nous bénéficions de l'aide de la France. Et quand Debré parle de l'aide de la France, il y a effectivement un fonds qui s'appelle le Fonds d'aide et de coopération, qui est un fonds très richement doté et qui permet de construire des routes, des écoles, d'aider au développement de l'agronomie. Exactement tout ce qui se faisait avant en réalité, parce que ce Fonds d'aide et de coopération qui est créé avec le ministère de la coopération, donc il a le même nom, ce Fonds d'aide et de coopération en 1959 est l'exacte suite, on a juste changé le nom, du FIDES, du Fonds d'investissement et de développement économique et social qui avait été créé en 1947 et qui servait exactement à la même chose, sauf que les territoires en question étaient des territoires et non pas des États autonomes.
Vous remontez même aux années 20 pour essayer de trouver ces origines de fonds et de mécanismes qui ont été transformés pour arriver jusqu'à ce moment de la décolonisation. Ce qui est intéressant, c'est que dans la manière de mettre en œuvre les politiques au lendemain des décolonisations, on a une forme d'économie planifiée en Afrique comme en France, et on peut trouver en fait une similitude entre la France et la manière de gérer la France que veut le général de Gaulle et la manière dont ces politiques de coopération et d'aide au développement, puisqu'on parle encore de ça, sont mises en place dans ces anciennes colonies. Pierre Jacquemot.
Oui, vous avez raison. La France a proposé une démarche en matière de programmation du développement qui est très largement inspirée de l'expérience d'après-guerre française, qui est la planification. C'est pas la planification soviétique, c'est une planification libérale. Et pratiquement tous les pays ont connu, dans les années 60-70, des plans quinquennaux préparé minutieusement à l'aide d'un appareil statistique souvent aidé par l'INSEE française et aidé très souvent par des coopérants français. Il existait un ministère du plan très connu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il y avait tellement de coopérants qu'on l'appelait le ministère du blanc, à l'époque d'un ministre très connu qui s'appelait Diawara. Je voudrais, on fait référence à un certain nombre de phrases célèbres ou de discours importants qui ont marqué cette phase, mais pour essayer de comprendre une chose, on a toujours eu un problème, c'est de, comment dirais-je, comment justifier auprès de l'opinion publique française cette priorité à l'Afrique, c'est un problème politique, mais également une dotation exceptionnelle qui est le fonds d'aide et de coopération, qui déroge encore une fois la loi de finances et qui correspond à des montants en termes de dépenses publiques qui ne sont pas négligeables. Il y a deux phrases qui sont importantes dans cette histoire. C'est celle d'un journaliste, Raymond Cartier, 1954, qui était journaliste à Paris Match, et à propos de ses dépenses, avait dit « il faut mieux aider la Corrèze que le Zambèze ». On appelle ça même le cartierisme. Et ça reste encore très très dominant dans une partie de l'opinion publique française. On a des pauvres chez nous, pourquoi aider les pauvres, aider les pauvres en Afrique ? Et la réponse est venue des années après, François Mitterrand, 1981-1982, un discours célèbre sur ces questions, où il a dit « aider le tiers-monde, c'est céder soi-même ». C'est-à-dire montrant qu'il y avait une complémentarité étroite entre les possibilités de développement économique et social des pays africains et les intérêts économiques et sociaux français. Il y avait en quelque sorte ce qu'on a appelé à l'époque un co-développement possible. Donc vous voyez la mutation, et c'était un discours qui était essentiellement tenu en direction de l'opinion publique française.
C'est une forme de discours de légitimation qui avait lieu à l'époque. Vous rappeliez ces mots de François Mitterrand. Moi, j'aimerais faire un saut dans le temps jusqu'à une période beaucoup plus contemporaine et voir que ce discours de légitimation fondait sur un intérêt bien ordonné qui serait à la fois celui de l'Afrique mais aussi celui de la France a été encore utilisé. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Borloo à ce sujet.
La réalité, c'est que nous avons à côté de nous, dans des liens en plus qui sont culturels, fraternels, linguistiques, nos familles sont mélangées entre l'Europe et l'Afrique. Il y a des rêves communs et il y a un relatif abandon de notre part de ces territoires. Or, c'est d'autant plus stupide de notre part qu'une partie de notre croissance dépendra du continent africain et une grande partie de nos drames à venir se dépendra aussi de ces grandes malaises. Donc moi, ce que je dis, c'est il faut sortir de l'aide au développement qui a été conçue il y a une quarantaine d'années, qui profite toujours aux mêmes, qui est pas centrée sur les besoins essentiels, et moi je ne peux pas me résoudre à voir un continent qui, pour 75% de ses membres, n'ont pas d'accès à l'énergie, donc d'accès à la santé, à une éducation normale, à une industrie agroalimentaire. Il faut tout rebâtir.
On entendait Jean-Louis Borloo dans Interactive sur France Inter le 23 janvier 2018. Selon lui, l'intérêt de la France serait tout trouvé en investissant massivement pour l'électrification de l'Afrique. On permet non seulement d'aider ces peuples, mais aussi de nous aider nous-mêmes, puisque ça favoriserait la croissance de l'Europe et que d'une certaine manière aussi ça permettrait de lutter contre ce péril migratoire que certains craignent. Julien Mémon, que peut-on dire de cette permanence de ce discours de légitimation? On aide l'Afrique car ça nous aide nous-mêmes.
Bah d'abord, effectivement, ce que vous dites, comme vous le soulignez, c'est-à-dire la permanence de ce discours, c'est avec un changement dans la manière de l'appréhender quand même entre les années 80 et aujourd'hui. Aider le tiers-monde, c'est céder soi-même. Discours de Cancun, discours de Mitterrand, et là aujourd'hui on a glissé plutôt dans un autre sens, et à mon avis un sens relativement opposé, consiste à dire il vaut mieux les aider pour moins qu'ils nous agressent par la suite en quelque sorte, et qu'ils nous agressent comment? Par les vagues migratoires, et avec le succès aidant de l'extrême droite aux diverses élections en France depuis les années 80 et la montée progressive de cette force politique.
politique jusqu'au 21 avril 2002. Ce sont des moments qui font bouger la scène politique française. Je crois que la menace migratoire est peut-être le seul angle sous lequel on a abordé les questions de développement dans les débats politiques et notamment pré-présidentiel, ces dernières années, au moins ces 10 ou 15 dernières années. Aujourd'hui, la situation politique est telle que dans les débats qui précèdent les élections, quelles qu'elles soient, on ne parle pas de développement autrement que pour dire que ça va permettre de juguler en quelque sorte les risques migratoires, d'une part, et d'autre part, pour la première fois depuis les débuts de la Ve République, il n'y a pas de ministre dédié ni à l'Afrique ni au développement, ce qui pendant toute une période a été relativement confondu.
On peut voir ça aussi comme une remise en cause de cette passion africaine de la France dont vous parlez, Pierre Jacquemot. Peut-être qu'aussi une manière de comprendre la remise en cause de cette passion pour l'Afrique, c'est que les motivations qui existaient jusqu'alors, on voit ce que nous présente Jean-Louis Borloo d'un regard de croissance que nous permettrait l'Afrique, mais cela semble assez diffus. Mais pendant longtemps, ça a été très clair, c'est qu'il y avait une motivation commerciale pour la France qui avait non seulement intérêt à faire venir des produits de ces anciennes colonies, mais aussi de lui vendre des produits manufacturés.
Oui, l'Afrique a diversifié ses partenaires, on ne peut pas lui reprocher. Les partenaires européens sont plus nombreux, les Allemands sont extrêmement présents, les partenaires asiatiques, à commencer par la Chine, mais pas seulement, sont présents, les partenaires, pendant longtemps le Brésil a eu une politique très active, la Turquie, donc on est dans un contexte multipolaire, mondialisé, et la France est un des acteurs, mais pas l'acteur exclusif de la relation partenariale avec les pays africains anciennes puissances coloniales, qui étaient sous le joug colonial. Je voudrais insister sur un point, puisqu'on parle de l'histoire longue, qui n'a pas été véritablement identifié, c'est le transfert de compétences qui s'est fait enfin. Je disais tout à l'heure qu'on avait 10 000 coopérants dans les années 80. Aujourd'hui, il y a 10 000 experts africains qui font le même travail, qui sont des médecins, des ingénieurs, des vétérinaires, des économistes, avec au moins autant et sinon plus de compétences, puisqu'ils sont enracinés dans le milieu. Donc, d'une certaine manière, ce projet de décolonisation a abouti à ce renforcement de capacités. C'est intéressant dans ce que dit Borloo à propos de l'électrification, c'est que lorsqu'on regarde les projets d'électrification rurale, off-grid, hors réseau, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'innovations extrêmement intéressantes qui se font sur le terrain et qui peuvent être réinjectées dans le contexte français avec beaucoup de pertinence, à la fois sur le volet technologique, utilisation du numérique à des fins d'électrification, sur les mécanismes de paiement. Et donc l'Afrique commence à produire des idées qui ont une vocation plus universelle. Voilà. Et donc d'une certaine manière, si on s'inscrit dans la longue durée, on peut tirer une certaine fierté, le transfert s'est fait en direction de l'Afrique.
En dépit d'une volonté de domination, il y a quand même eu un passage de témoin. Nous interrogerons demain la permanence et l'usage qui est fait aujourd'hui du franc CFA en Afrique.
Baby, you tell me you need to be mine. Baby.
Merci à Pierre Jacquemot et à Julien Mémon d'avoir été parmi nous pour évoquer cette période passionnante des indépendances africaines. Je rappelle les noms de vos ouvrages respectifs. Julien Mémon, vous êtes l'auteur de « Déclic solidaire » et « Si vous deveniez la clé d'une société d'entraide » paru chez Larousse. Pierre Jacquemot, vous avez publié « L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence » chez Cartala. Demain, vous retrouverez Tiphaine de Roquigny aux commandes d'Entendez-vous l'écho pour interroger les usages d'une monnaie contestée, le franc CFA. Outil de stabilité ou dispositif de domination, c'est ce que nous tenterons de démêler en compagnie de l'économiste Martial Zé Bellinga et de la journaliste Fanny Pigeot. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres disponibles pour l'éternité en podcast ou sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Entendez-vous l'écho.